Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆加
正忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Salomé Vio et Christophe Payet, réalisée par Doria Zénine et mise en onde ce matin par Jacques Azubert. On poursuit notre série consacrée aux montagnes, de l'Himalaya au Caucase, la montagne objet de convoitise. On commençait lundi avec des frontières et des guerres. Mardi, hier, nous parlions de sociologie du tourisme des neiges. Demain, jeudi, nous irons du côté de Sotchi, où comme ailleurs, c'est la ruée vers l'or blanc qui s'impose, mais aujourd'hui, un peu de spiritualité, les cimes des dieux.
Voyez, on a toute la Bible devant nous. Si vous regardez...
Sœur Christine, supérieure du monastère contemplatif du Mont des Oliviers, ne se lasse pas d'admirer cette vue qui surplombe l'un des plus beaux panoramas de Jérusalem. De la terrasse de son couvent se dressent les principaux lieux sacrés des religions monothéistes. Le Dôme du Rocher, le Mur des Lamentations ou bien encore le calvaire où fut crucifié Jésus.
Kourouch, dans le sud du Daghestan, pays du Nord-Caucase, est le plus haut village d'Europe. Le lieu de repos éternel du roi Salomon se trouverait sur le mont Chalbouzda, en face du village. C'est un lieu de pèlerinage pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.
Complètement fermé aux étrangers depuis l'invasion chinoise de 1950, Kailash est la montagne la plus vénérée d'Asie. Pour de nombreux bouddhistes, hindous et autres pèlerins, son ascension est une quête spirituelle qui varie selon les croyances. Kailash n'a jamais été vaincu. Son ascension totale serait un sacrilège.
Du Mont des Oliviers à Jérusalem, au Mont Kailash au Tibet, les cimes du monde semblent chargées d'une grande énergie spirituelle. Lieu de retraite pour des ermites, pour des moines, lieu de pèlerinage, de nombreuses pratiques religieuses semblent tourner autour de ces sommets à tel point que le lien entre cimes et spiritualité semble presque universel. Alors comment l'expliquer? Le décor majestueux des hauts sommets serait-il de nature à provoquer des interrogations métaphysiques? La beauté de ces sanctuaires naturels s'impose-t-elle aux cultures et aux peuples, quels qu'ils soient? L'observation, la connaissance de ces montagnes sacrées du monde est en tout cas un bon point de départ pour comparer et comprendre les cultures du monde. Bien plus, ces sommets des dieux nous permettent peut-être de mieux comprendre ce que l'on pourrait appeler l'universalité du sentiment spirituel, à défaut de religion stricto sensu. De nombreuses montagnes ont rempli des rôles tout à fait comparables dans ces systèmes de croyances, pourtant très différents. C'est le cas de Croagh-Patrick en Irlande, d'abord au centre de rituels celtiques, puis objet de la ferveur catholique sur un registre similaire. D'autres cimes, comme le mont Kailash justement au Tibet, ou le mont des Oliviers à Jérusalem, remplissent des rôles centraux dans des religions qui cohabitent encore aujourd'hui. Nous discuterons de ces questions avec deux experts à ces montagnes sacrées, Xavier Bernier, co-auteur de l'Atlas des montagnes. Le sentiment religieux mystique est-il consubstantiel aux cimes? Et la documentariste et ethnologue Marianne Shaw, auteur de plusieurs documentaires réalisés dans l'Himalaya, sera l'occasion de voir comment cette spiritualité des cimes, bouddhiste en l'occurrence, est vécue en pratique par les populations locales. Mais pour commencer cette émission et pour nous accompagner dans cette matinée, un tour d'horizon général de ces montagnes sacrées du monde avec un écrivain, voyageur, c'est Pierre Chavot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Bordeaux, vous êtes historien de formation, Pierre Chavot, vous êtes, oui, quelque part un spécialiste des religions et puis surtout auteur de cet ouvrage. Alors vous en avez écrit de très nombreux, mais le dernier en date, un beau livre, Voyage spirituel au sommet du monde, paru aux éditions de l'Archipel cette année, il y a quelques semaines. Alors peut-être, Pierre Chavot, on pourrait commencer par cette chose. D'abord, précisons, Pierre Chavot, vous n'êtes pas croyant vous-même. Hein. Vous vous intéressez aux questions de spiritualité dans le monde, mais vous n'êtes pas spécifiquement croyant. Hein. Pierre Chavot, vous confirmez?
Absolument. Je confirme. En même temps, j'ai la sensation, et d'ailleurs, autant les montagnes sont parmi ces exemples de sièges de force qui nous dépassent totalement. Et bien sûr, il faut imaginer nos ancêtres, il y a des milliers d'années, devant ces mastodontes, qui devaient imaginer qu'au sommet résidaient des puissances incommensurables. Alors, je suis sensible à tout ça, comme beaucoup de gens. On pourrait dire que je suis déiste, mais je ne suis pas attaché à une foi particulière. En tout cas, je suis impressionné par et infiniment respectueux de toutes ces croyances, de toutes ces fois et de toutes ces démonstrations de croyances.
En tout cas, vos différents voyages, dont certains sont rapportés dans cet ouvrage dont on va parler, montrent combien, partout dans le monde, ces montagnes sont des lieux vraiment privilégiés pour étudier les pratiques rituelles, pour étudier les croyances divines. Ce sont évidemment des hauts lieux de la spiritualité. Comment vous avez ressenti, vous, ces choses-là pour le non-croyant? Croyant que vous êtes, cette montagne, elle est habitée par une certaine présence. Comment vous la décririez vous-même? Comment vous la définiriez? Qu'est-ce qu'elle représente pour le non-croyant que vous êtes?
Alors, systématiquement, mais dans tous les voyages que j'ai pu faire, quel que soit le site qui m'a impressionné, je ferme les yeux, en fait, et je me laisse habiter par l'espace environnant. Alors, bien entendu, quand on est entouré de croyants, de pèlerins, etc., et surtout quand on marche, parce que la marche est remplie de vertus spirituelles, le fait de fermer les yeux vous permet de se laisser envahir doucement. Et à chaque fois, j'ai ressenti cette prise de possession qui n'a rien de violente, bien au contraire, qui est extrêmement bénéfique et qui vous perce jusqu'aux os. C'est vraiment une sensation purement physique et bien entendu spirituelle, du coup.
Le fait que cette montagne soit un lieu de spiritualité, comment le comprendre? Est-ce que c'est parce que finalement, le plus souvent, la vie sociale et se situe dans la vallée et que du coup, presque mécaniquement, plus on monte vers les cimes et plus l'éloignement du cœur de la vie sociale, communautaire, cet éloignement nous pousse à nous tourner vers des préoccupations spirituelles, vers des questions philosophiques, métaphysiques, religieuses. C'est ça, comme ça qu'on pourrait l'expliquer?
Alors, je pense que de toute façon, toutes ces montagnes, même celles d'Occident, comme le mont Bégo, dont on a oublié et perdu les croyances très anciennes, ont ceci de commun qu'elles concentrent des forces primordiales et des divinités essentielles, parfois démiurges. Il y a le Uluru en Australie, des aborigènes, on est un exemple, mais il y en a d'autres, la Devil's Tower aux États-Unis, et puis bien sûr le Kailash et toutes ces montagnes emblématiques. Et à chaque fois, c'est un espace de rencontre entre les humains, bien entendu, mais aussi avec ces divinités. Donc c'est un espace de contact. C'est pour ça que les gens s'y retrouvent, alors parfois toute l'année, parfois à des dates précises, pour des pèlerinages particuliers. Et parce que, comme l'arbre cosmique chez les chamans sibériens, par exemple, la montagne représente simplement, pour faire court, un enracinement dans le sol et un tutoiement du ciel. Et donc de faire le lien entre l'espace et la terre.
Vous parliez de pèlerinage à l'instant, Pierre Chavot. Vous qui avez visité un certain nombre de monts sacrés sur tous les continents de notre Terre, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a une forme de retour peut-être au pèlerinage, bien sûr, mais peut-être pas seulement au pèlerinage, aux balades spirituelles, aux pérégrinations spirituelles dans notre monde aujourd'hui? Est-ce que les gens se remettent finalement à faire des pèlerinages? Vous avez eu ce sentiment-là?
Alors, tout à fait. À l'instar des, par exemple, des monastères catholiques en France qui enregistrent depuis une vingtaine d'années une recrudescence de fréquentation qui n'est pas nécessairement religieuse, mais qui est en tout cas une quête de tranquillité, de spiritualité, de paix. C'est pareil. J'ai le souvenir, alors, dans le Croac Patrick, d'avoir rencontré. Dans le comté de Mayo, donc le Zéinan, je m'y étais rendu en juillet et j'avais loué un petit scooter. Nous avions loué un petit scooter et mon petit scooter est tombé en panne. Donc je me suis garé sur le bord de la route et à peine je l'avais mis de côté à l'abri qu'une voiture s'est arrêtée. À l'intérieur, il y avait trois Français. Et ces trois Français, en fait, avaient une démarche mais assez étonnante. C'était trois grands gaillards dont je me souviens les prénoms, Jean-Pierre, et Pascal et Philippe. Et ils venaient, en fait, c'était des fanatiques de Frank Zappa qui faisaient résonner dans la voiture à fond. J'avais les oreilles qui bourdonnaient tellement c'était fort. Et ils étaient tellement passionnés. En fait, ils voulaient aller sur le Croc Patrick, retrouver ce que Frank Zappa décrit comme la continuité conceptuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans le temps entre nos origines et ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on deviendra. Et le Croix-Patrick m'a donné, mais comme d'autres montagnes, cette sensation, mais vraiment chevillée, de vivre dans un temps qui ne nous appartient plus et d'être comme un peu suspendu en l'air. Et j'ai fini cette visite avec ces trois Français. On a rencontré des Irlandais avec leur accent gaélique prononcé, ou alors même quand ils parlent gaélique, c'est vraiment un pays extrêmement accueillant, des gens adorables. Et c'est impressionnant de les voir monter pieds nus sur cette montagne rocailleuse. Et le soir, je ne sais pas comment ils avaient fait, ces trois Français, mais ils avaient réussi à faire des saucisses lentilles qu'on a dégustées sur un petit réchaud au bas de la montagne. Alors c'était un bel... Voilà, des souvenirs comme ça.
Le Croix-Patrick, justement, alors... donc. On est en Irlande, c'est un mont qui est aussi connu sous le nom de The Rick, qui veut dire la meule. Mmh. On est à l'ouest de l'île. D'abord, il faut dire que c'était un lieu qui était fréquenté déjà par les cultures celtiques, bien avant le christianisme.
On retrouve cette continuité dans beaucoup de montagnes, une sorte de syncrétisme qui s'est installé, notamment en Amérique latine, aussi bien le Popocatépetl qu'on
va en parler.
Voilà, où le syncrétisme est vraiment très très prégnant. On le retrouve aussi en Asie, alors sous forme différente, parce qu'on parlait du Kailash, mais d'autres montagnes concentrent différentes fois, bouddhistes, bonnes, du chamanisme pur également, qui remonte vraiment à la nuit des temps. Et oui, la montagne rassemble. C'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu de rassemblement où plusieurs fois peuvent cohabiter. Alors, des fois, dans des circonstances très particulières, voire difficiles, comme ça peut être le cas au Mont des Oliviers, mais dans d'autres cas, de manière extrêmement vivante et très paisible.
Quel lien cette montagne avec Saint-Patrick, évangélisateur pardon, de l'Irlande, fondateur du christianisme irlandais? Pourquoi est-ce que les pèlerins chrétiens viennent sur ce site? Un peu d'histoire.
Ah là, parce que Patrick est donc traditionnellement l'évangélisateur de l'Irlande. L'Irlande est dans les îles britanniques, enfin l'Irlande est indépendante aujourd'hui, mais le pays qui a été évangélisé le plus tard, qui a toute une tradition de littérature très très riche, de mythologie celtique irlandaise, comme les Écossais d'ailleurs. Et le catholicisme, bien entendu, pour asseoir son autorité, a repris à son compte, pas simplement en Irlande, mais dans tous les pays évangélisés, d'anciennes traditions dont qu'elle a attribué à dessein. Donc c'est le cas chez nous également. Hein. Et donc résidait sur ce mont le Lug, qui était la divinité principale des Murges, donc créateur du monde, et l'a remplacé par Saint-Patrick, qui aurait jeûné 40 jours. Et à l'issue de ces 40 jours, il a vaincu des démons, et ensuite tous les serpents ont quitté l'île. Donc,
chasser les serpents, évidemment, l'acte qui font le symbole de la conversion du peuple irlandais.
Oui, et puis bon, alors que cet animal, notamment dans la tradition celtique, est empreint de sagesse, dans la tradition catholique, du fait de la Genèse, est empreint de malice, et voire de roublardise, voire de mensonge. C'est le représentant du mal sur Terre.
Alors il y a ce pèlerinage qui se fait toujours chaque année, notamment je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs dans l'année, mais en tout cas le principal c'est le dernier dimanche de juillet, hein, le Rig Sunday, vous le disiez, oui. On monte à pied avec son bâton, on vient prier à la chapelle qui se trouve là, on repart même, j'ai vu, avec un certificat attestant de l'épreuve accomplie. Est-ce que le caractère, j'allais dire, celtique du lieu a totalement disparu aujourd'hui?
Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, on entend parler gaélique. Donc, en fait, on est encore une fois dans deux temps différents qui se rejoignent. Mais c'est vrai que l'aspect purement celtique a disparu. C'est indéniable. Alors, en tout cas, cette démarche des pèlerins, elle est identique à celle de tous les pèlerins du monde, en tout cas sur des montagnes. C'est la notion de purification. La volonté de ressortir de ces expériences et de ces séjours, dégager, débarrasser de toutes les scories d'existence. Il y a cette volonté, et c'est pour ça que, par exemple, on parlait du Kailash tout à l'heure, elle est toujours interdite d'ascension, parce qu'on ne peut pas atteindre la pureté totale, la pureté idéale.
Mmh. C'est mon Kailash situé dans la chaîne de montagnes du plateau tibétain, la plus haute montagne du Tibet, en dehors de l'Himalaya. Pour les bouddhistes, c'est une montagne qui représente le centre de l'univers, la demeure de Shiva. Chaque bouddhiste aspire à en faire le tour. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement important pour les bouddhistes, hein, c'est aussi un lieu sacré pour les hindous.
Oui, voilà, au travers de Shiva et puis du Bön, c'était la religion traditionnelle du Tibet avant l'implantation du bouddhisme.
C'est un mélange en gros de pratiques chamaniques et animistes.
Oui, c'est ça. Et donc pour le Bön, c'est la résidence de la déesse du ciel. Et pour les bouddhistes, la résidence de personnages emblématiques, enfin très très importants, comme Milarepa, qui est la personnage clé du bouddhisme tantrique. Donc voilà, cohabitent tous ces gens et avec, on voit ces... voilà les paysans qui font paître leurs moutons sur la plaine et puis ces gens qui voilà se promènent avec leurs moulins à prière pour les bouddhistes. Enfin c'est vraiment très très étonnant et très rafraîchissant
et impressionnant aussi.
Ah oui, parce que vous avez les drapeaux de prière tendus, tout ça, il y a un vent qui règne, qui vous balaye le visage.
Parce que c'est une épreuve physique considérable.
Oui, d'ailleurs je suis pas alpiniste, je tiens à le préciser, parce que pour monter au sommet de certaines montagnes, il faut vraiment des qualités physiques et vraiment réelles et un entraînement de chevronné. Donc moi, je me suis contenté de faire certains circuits qui existent toujours. Voilà, donc ça, la montagne est un être vivant, comme la mer d'ailleurs, extrêmement exigeant et qui ne pardonne pas si on outrepasse ses lois.
Ceci dit, on ne monte pas sur le mont Kailash puisque son ascension est interdite. D'ailleurs, en 2001, il y avait une expédition espagnole, je ne sais pas si vous savez, qui avait obtenu l'autorisation de la part de la Chine de tenter l'ascension du mont Kailash. Et le gouvernement tibétain en exil, avait littéralement... exulté. Nous avons été profondément affectés, disait-il, en apprenant que les autorités chinoises ont donné la permission à un groupe d'alpinistes espagnols de faire l'ascension du Gang Rinpoche, qui est en fait le mont Kailash. Et finalement, la Chine avait fait marche arrière et avait décidé d'en interdire définitivement l'ascension. Pierre Chavot, les cimes des dieux, on poursuit, on va aller du côté du Mexique.
D'accord.
La Mestiza, le pays des Métis, pour aller justement du côté du Mexique. On est à près de 70 km de distance de Mexico et on a là le El Popo, disent les Mexicains, le Popocatépetl. Popoca, émettre de la fumée, et Tépetl, montagne, un volcan qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude, 5426 exactement, qui s'est d'ailleurs réveillé récemment. Le dernier frémissement a eu lieu en juin dernier, mais en fait ça fait une dizaine d'années qu'il est plus ou moins en activité, faible mais réel en tout cas. Vous évoquez évidemment ce lieu, Pierre Chavot, dans votre livre, oui. Voyage spirituel au sommet du monde. Et ce qui est amusant, c'est que vous le dites dans votre ouvrage, c'est que ce volcan est mythique bien sûr, mais surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il réalimente régulièrement des thèses un peu étonnantes. Par exemple, on trouve, quand on regarde, j'ai regardé ça hier sur Internet, on trouve une multitude de vidéos qui montrent des supposées soucoupes volantes qui auraient pénétré à l'intérieur du volcan sacré. Il est toujours au centre de l'imagination des hommes qui vivent à proximité.
C'est pas le seul. Hein. Le Mont Bégaud aussi sera le siège de enfin donc dans le parc du Mercantour en France sera le siège de manifestations surnaturelles. Alors effectivement, je les ai pas vus moi-même. Bon, en tout cas, c'est une montagne assez saisissante parce que c'est un volcan encore en activité. Et je pense que c'est cette activité qui fait qu'on le relie à des phénomènes surnaturels. Ça alimente les imaginations et cette montagne a toujours alimenté les imaginations, pardon, et elle est toujours vivante dans la tradition, dans une forme de syncrétisme qu'on évoquait tout à l'heure, parce que quand les Aztèques se sont répandus sur la plaine de Mexico il y a environ 700 ans, plein de légendes ont couru sur cette montagne et continuent de courir. J'ai été saisi d'ailleurs quand je suis arrivé à Mexico pour mon voyage de rencontrer, on parlait tout à l'heure de la mort et que va évoquer un de vos invités, et s'est développé justement ces dernières années un culte de la Santa Muerte à Mexico même, et vous voyez des gens au coin des rues, c'est vraiment impressionnant, qui prient une statue, une sorte de Vierge Noire, et donc bien sûr ça fait appel à la notion de déesse primordiale, de déesse mère qui existait avant l'occupation espagnole, et on retrouve cette sensation de mélange encore une fois autour de la montagne, parce que ces pays, ces cultures parfois très très anciennes sont assez méconnues chez nous. On a un regard un petit peu même parfois très limité, avec beaucoup d'a priori, et le fait de se plonger au milieu de cette géographie à la fois montagneuse et humaine nous permet de nous immerger totalement dans une culture et d'essayer enfin de la comprendre un peu.
Et on trouve nombre de monastères sur le flanc du volcan.
Ben oui, des monastères qui sont d'ailleurs classés au patrimoine de l'UNESCO pour pouvoir les protéger. Et en même temps, vous avez donc ces manifestations de syncrétisme avec des villageois qui viennent donc dans ces sanctuaires déposer des offrandes, ils entonnent des chants, etc. Je m'étais d'ailleurs étonné parce que j'avais rencontré des pèlerins autour qui n'arrêtait pas de prononcer un mot dont je ne connais absolument pas. Alors si quelqu'un peut m'aider, j'ai pas pu me faire traduire, qui prononçait le mot aloqua. Et ça, ça reste un mystère pour moi. Alors c'est sans doute une invocation très très ancienne. Et c'était vraiment il y a aussi une sorte de familiarité puisque la montagne peut aussi guérir. Et d'ailleurs, il l'appelle, parce qu'il y a deux montagnes en fait. Hein. C'est l'origine, c'est une sorte de Roméo et Juliette aztèque. Et donc, une histoire d'amour très intense qui se termine mal pour les deux protagonistes. Et donc, ils appellent l'une Don Goyo et l'autre Doña Rosa. Donc, il y a aussi une familiarité avec la montagne. On est amis avec la montagne.
La montagne peut guérir, vous disiez, mais la montagne peut aussi être une zone de mort, un espace des morts. C'est ce dont on va parler tout de suite avec notre invité Xavier Barnier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Xavier Barnier. Vous êtes enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Savoie et vous êtes co-auteur de l'Atlas des montagnes, qui est paru aux éditions Autrement, co-auteur avec Christophe Gauchon, qu'on avait lundi dans l'émission. Vous êtes intéressé, évidemment, à de nombreux sujets relatifs à ces montagnes, mais peut-être plus particulièrement à la question de la montagne comme lieu de spiritualité, de sacralité. Avant de commencer notre discussion, Xavier Barnier, je vais vous faire écouter un extrait d'un film que vous connaissez, c'est La balade de Narayama, qui est un film japonais de 1983 de Shohei Imamura. Alors, en quelques mots pour les auditeurs, l'histoire se déroule dans le Japon des années 1860, dans un village de montagne pauvre et isolé. Et dans ce village, la coutume veut que les anciens, arrivés à l'âge de 70 ans, s'en aillent mourir volontairement au sommet de Narayama, la montagne Oshen.
Écoutez, pour le pèlerinage à la montagne, il y a des règles strictes. Vous ne devez en omettre aucune. L'une d'elles est... En chemin, il est interdit d'échanger un seul mot.
L'une est, lorsqu'on quitte sa maison, s'arranger pour que personne ne vous voie sortir.
Le chemin est obligatoire. Tout d'abord, contourner la montagne de l'ouest. Ensuite, quand on a atteint les houes, on doit monter la pente de la troisième montagne pour atteindre les étangs. les contourner trois fois et faire l'ascension jusqu'au sommet.
Au sommet, continuez à avancer et longez la vallée. La contourner en marchant encore deux lieues, le long d'un chemin qui fait sept tournants. Ce sentier est celui dit des sept vallées.
Quand on a quitté les sept vallées, on marche encore. Et quand on a franchi le col, on voit Narayama devant soi. La récompense est proche. On monte encore en plein milieu des chaînes. Le sentier n'existe plus, mais on grimpe, le Dieu attend.
Quand vient l'heure du retour de la montagne, il est dit qu'on ne doit jamais se retourner.
La balade de Narayama, film de 1983, d'ailleurs Palme d'Or 1983. Très beau film, il y a notamment un passage très dur où la mère, alors qu'elle a quasiment 70 ans, elle a 69 ans et encore toutes ses dents, se fracasse justement les dents contre la pierre, se résignant ainsi à préparer son départ vers la montagne où elle trouvera la mort. Xavier Barnier, dans ce film, la montagne, là pour le coup, est le lieu où les âmes et les dieux se retrouvent, mais c'est aussi et surtout un espace de mort, un espace de la mort, Xavier Barnier.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les relations que les sociétés humaines entretiennent avec la montagne, le rapport à la vie, à la mort, aux vivants, aux divinités, c'est un support civilisationnel qui est très fort, hein, qui est permanent. Alors vous l'avez dit depuis le début de l'émission, il y a des spiritualités sans doute profanes, mais la spiritualité elle est traditionnellement rattachée à la religion. Et c'est vrai qu'en la matière, les religions, hein, aussi bien les religions animistes que les religions du livre, ont assigné à la montagne une place tout à fait éminente, lieu de vie, lieu de mort, effectivement, demeure des dieux. Hein.
Oui, parce que lieu de vie, lieu de mort, les cultures, quand on regarde un peu les religions, la montagne n'est pas toujours un espace de mort, il peut être aussi un espace de vie, un lieu de survie. Quand on regarde par exemple après le déluge, l'arche de Noé vient s'échouer sur le mont Ararat, hein, qui est dans l'actuelle Turquie, hein, d'après la Bible. Pour le Coran, c'est un petit peu plus loin, c'est sur le mont Djoudi, mais en tout cas, la montagne accueille aussi l'arche de la vie, la Renaissance, quoi. Il n'y a pas d'invariant anthropologique.
Tout à fait. C'est un lieu souvent qui est préservé dans de nombreuses cosmogonies, un lieu où la vie va redémarrer. Il suffit de se souvenir, il y a un an seulement, quand on annonçait la fin du monde, vous vous souvenez, selon le calendrier maya, dans les Corbières, sur le point culminant, hein, qui est le pic de Bugarach, beaucoup de personnes s'étaient rassemblées pensant que sur ce pic, on pouvait échapper à la fin du monde. Donc c'est cette dialectique entre la vie et la mort qui est assez fréquente en montagne et qu'on va retrouver, je vous le disais, aussi bien dans les religions animistes que dans les religions du livre.
Xavier Barnier, vous qui avez fait cet atlas des montagnes, vous qui êtes géographe, à partir de quelle altitude, finalement, la vie en montagne devient-elle compliquée? Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on observe que finalement les hommes, les communautés ont du mal à trouver leur place?
Alors, c'est vrai que au-delà d'une certaine altitude, nous, géographes, on va beaucoup se questionner sur le plafond de l'habitat permanent, en tout cas. En la matière, il y a des débats qui sont très nombreux, 5 000, 5 500 mètres, c'est des plafonds d'ailleurs qui sont plus ou moins fluctuants. Pour les alpinistes, c'est une réalité beaucoup plus concrète, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques, hein, baisse de l'oxygène disponible, baisse de la pression atmosphérique, et l'organisme est soumis à toutes sortes de contraintes, à telle enseigne que, au-delà d'une certaine altitude, que l'on convient autour de 7000 mètres environ, on rentre dans ce qu'on appelle véritablement la zone de la mort. Et c'est un espace très dangereux, les alpinistes qui vont à ces altitudes le savent, hein. On ne reste pas quand on est arrivé au sommet, ce sont des lieux effectivement très très mortifères, hein. La vie disparaît d'ailleurs progressivement au fur et à mesure qu'on atteint ces altitudes-là.
Et alors justement, cette zone de la mort, vous dites 7000 mètres, c'est là où commence le fameux mal des montagnes avec son lot d'œdèmes, d'hallucinations, c'est à cette altitude que ça commence ?
Alors, pas vraiment. Le mal des montagnes se manifeste avec des symptômes nombreux, des vertiges, de l'inappétence, des maux de tête, qui peuvent après dégénérer avec des œdèmes, qui peuvent être mortels, mais ils peuvent se manifester depuis des altitudes relativement basses. Hein, chacun a son propre plafond, en quelque sorte, en matière de mal des montagnes. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain seuil, ça prend une tournure qui peut être tout à fait dramatique. Beaucoup d'alpinistes s'équipent aujourd'hui, par exemple, de caissons à oxygène, ou en tout cas se préparent à redescendre très vite quand ces symptômes sont aigus. Hein.
Peut-être réaction de votre côté, Pierre Chavot, en duplex avec nous, toujours depuis Bordeaux, cette montagne comme zone de mort, comme espace de mort, Pierre Chavot.
Forcément, parce qu'elle est liée aussi à des dangers qui sont inhérents à la nature elle-même et à son côté impressionnant, comme si elle allait nous engloutir. On y trouve aussi, bien sûr, des tombeaux. Par exemple, Moïse est enterré, aurait été inhumé au sommet d'une montagne surplombant la terre promise, c'est-à-dire le Canaan, le pays de Canaan. En même temps, je rejoins ce que disait votre invité, parce que c'est un espace de mort et de vie, c'est-à-dire de régénération. Par exemple, c'est sans doute pas un hasard si Jésus, dans les évangiles, prononce son fameux discours programmatique, dans lequel il dit voilà, bienheureux seront les plus humbles, les plus malheureux, etc. Et que ce discours est prononcé sur une montagne, bien sûr, dont on ne connaît pas, bien sûr, la localisation précise. Et aussi parce que le Mont des Oliviers, autant dans le judaïsme que dans le christianisme et dans l'islam, joue un rôle très important. De même, le Sinaï. Et le Sinaï a justement cette ambivalence. Quand Moïse monte, parce que vous allez sur le monastère Sainte-Catherine là-bas et vous surplombez la presqu'île du Sinaï, on a l'impression d'être dans l'espace, tellement c'est magnifique. Et on comprend aussi pourquoi ils ont choisi cette montagne majestueuse. Et les Hébreux qui ont trahi Dieu parce qu'ils ne voulaient plus attendre Moïse qui tardait trop sont menacés de mort, mais Moïse parvient à convaincre Dieu de les sauver, enfin de les épargner plutôt, et du coup la vie l'emporte. Donc il y a cette ambivalence au mont du Sinaï.
Xavier Barnier, Eri De Luca, écrivain italien, auteur notamment de Monte Dio, Monte di Dio, qui veut dire la montagne de Dieu en napolitain, pour lequel il avait reçu le prix Femina étranger en 2002. Eri De Luca, d'ailleurs, qui est, on peut le dire, un alpiniste émérite, qui plantait jamais de clous sur les parois rocheuses parce qu'il préférait utiliser ceux des autres pour se sentir simplement de passage. Dans son livre sur les traces de Nive, qui est paru chez Calimard en 2005, il écrit « Les peuples qui vivent au pied des montagnes ont souvent placé les divinités sur les sommets, non pas pour les honorer depuis leur niveau inférieur, mais plutôt pour les tenir à distance. » C'est une citation que vous avez reprise dans votre atlas.
Oui, tout à fait. Et pour prolonger cette idée là d'ambivalence, je dirais que ces divinités qui habitent les montagnes, elles côtoient aussi des démons extrêmement maléfiques. Pour rappel, Himalaya, ça veut dire demeure des dieux, la maison, hein, Himal. Il y a d'ailleurs Ganesh Himal, hein, la maison de Ganesh. Annapurna, c'est la déesse de l'abondance. Les Tibétains appellent l'Everest déesse mère du monde, mais donc des demeures des dieux, mais en même temps, ce sont des repères de démons maléfiques, de dragons, de créatures extrêmement dangereuses dont on craint la présence. Hein. Il suffit bien sûr d'évoquer la présence des fameux yétis et de toutes sortes d'animaux pour montrer un petit peu cette ambivalence entre ce qu'on craint, ce qu'on tient à distance, ce qu'on va respecter, le divin, le maléfique. D'ailleurs, la figure même du yéti et d'autres créatures de montagne montrent que les limites entre l'humain et le sauvage sont extrêmement floues dans ces espaces-là.
Merci beaucoup, Xavier Barnier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, donc enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Savoie, et puis surtout co-auteur de cet atlas des montagnes, espace habité, monde imaginé, avec Christophe Gauchon. C'était chez Autrement. Merci infiniment. Le Mont des Oliviers, bien sûr, par Beethoven. Le Mont des Oliviers, c'est la montagne, le mont que vous avez choisi pour clore votre ouvrage, Pierre Chavot, Voyage spirituel au sommet du monde. Mont des Oliviers, colline à l'est de Jérusalem, un lieu important évidemment pour les trois religions monothéistes, pour les chrétiens d'abord, c'est le lieu évidemment de l'ascension du Christ, pour la tradition juive, le Messie qui amènera la résurrection des morts passera d'abord par le Mont des Oliviers avant d'entrer dans Jérusalem, et puis pour l'islam on trouve aussi d'ailleurs des mosquées hein, sur ce Mont des Oliviers. C'est votre souvenir le plus fort, celui où la présence mystique a été la plus prégnante, Pierre Chavot ?
Sans aucun doute. Alors, aussi certainement parce que c'est mon éducation. Je suis français, j'ai vécu dans la tradition occidentale, même si je ne suis pas imprégné du judéo-christianisme jusqu'aux os. Et j'ai le souvenir justement de deux personnes, deux Allemands, un jeune couple, qui était sur le Mont des Oliviers en même temps que nous. Et tout d'un coup, ils se regardaient avec une espèce de foi amoureuse phénoménale. J'ai rarement vu des gens s'aimer autant. Et il lui a dit ce qu'on dit sans doute dans toutes les langues, Ich liebe dich. Et ça, ajouté à... J'ai fermé les yeux. Et ajouté, j'ai eu vraiment la sensation d'être, encore une fois... habité par, alors c'est un peu succinct, mais Moïse, Jésus et Mahomet, enfin bon, les grands prophètes. Et on rouvre les yeux et on a autour de soi toute cette géographie partagée, morcelée, cet immense cimetière juif absolument impressionnant. Et c'est sans aucun doute, oui, absolument mon souvenir le plus puissant.
Mais au fond, c'est, vous allez dire, au fond, c'est quelque chose de subjectif, quoi. Vous y avez trouvé là quelque chose qui vous touchait, vous en particulier. Mais est-ce que vous diriez que, malgré tout, il y a peut-être quelque chose de spécifique ? On trouve dans ce lieu quelque chose qu'on ne trouve pas dans tous les autres monts que vous avez visités tout au long de vos pérégrinations ?
C'est de l'ordre de l'indicible. Je crois que quand on va dans ces lieux-là, comme quand on va dans une mosquée, si vous allez à l'Aqsa ou à la mosquée bleue d'Istanbul ou tout autre, ou une église, une cathédrale, une synagogue, bien entendu, un temple bouddhiste, les murs sont imprégnés. Il y a la nécessité absolue d'être totalement disponible à ce que vous allez voir, écouter, sentir, parce que l'odeur aussi est très importante. Tous les sens sont en éveil. Il faut être totalement dégagé de toute perception matérialiste. Il faut être disponible. Voilà. Et quand vous êtes disponible, j'apporte mon témoignage, mais il y a des grands noms qui l'ont dit bien avant moi et qui le diront encore. Quand vous êtes totalement disponible, vous êtes imprégné. Ça vous transmet des ondes qui sont totalement indescriptibles. Et ces lieux, par leur majesté, par les gens qui les fréquentent, on revient au Kailash, mais voir ces gens dans la... Parce que le mont est interdit d'ascension, mais ils font donc le tour, c'est ce qu'on appelle les circumambulations, et il y en a qui font le tour, donc ça peut durer des jours, voire plusieurs semaines, parce qu'il y en a qui font le tour à plat ventre. Donc voilà, quand vous assistez à ça, d'abord on réalise, si on ne l'avait pas fait avant, qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Mais alors on est encore moins que pas grand-chose. On est vraiment un tout petit grain de sable dans l'immensité.
Justement, cet esprit disponible que vous décrivez, on peut l'avoir dans un lieu vers lequel on va aller maintenant, c'est un monastère dans l'Himalaya. Voilà, ça y est, on y est dans ce monastère en plein Himalaya. Bonjour Marianne Shaw.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes cinéaste, ethnologue, auteur d'une série de 3 documentaires, Himalaya à hauteur d'homme, dont l'un se passe justement dans ce monastère, Himalaya, le chemin du ciel. Vous connaissez cette région depuis une douzaine d'années, vous réalisez régulièrement des documentaires. Et pour ce film, vous avez vécu plusieurs semaines dans un petit monastère bouddhiste. On est là vraiment accroché à la montagne, perché dans la falaise. C'est un endroit très isolé, l'accès est assez difficile. D'ailleurs, on le voit dans votre documentaire, l'une des tâches, hein, des moines et de creuser la montagne pour faciliter l'accès au village qui se trouve en bas. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe ce monastère plus précisément, qui est le plus haut de tout l'Himalaya en fait, hein.
De Pukhtan, qui se trouve à peu près à 4000 mètres d'altitude. Et là, on est dans le cœur du Zanskar. Le Zanskar étant une région à l'intérieur du Ladakh et le Ladakh faisant partie de l'Inde. Donc on est à l'extrême nord de l'Inde, à la frontière du Tibet. Et dans une région, effectivement, qui est très, très reculée et très isolée, il y a peu de moyens de communication. Et c'est l'un des monastères les plus élevés de l'Himalaya, et certainement l'un des plus majestueux aussi.
Évidemment, un cadre idéal pour l'élévation spirituelle.
Oui, et en fait, moi, j'avais traversé le monastère une première fois avant de décider d'aller tourner un documentaire là-bas. Et j'avais cette envie un peu égoïste de passer en hiver auprès de ces moines, dans ce lieu magnifique. Le monastère, comme vous le disiez, est accroché dans l'infractuosité d'une falaise et domine la vallée où serpente une rivière bleu turquoise enserrée de glace et de neige. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de passer en hiver dans ce lieu incroyable auprès de ces hommes? Donc je suis partie là-bas avec ma caméra et j'ai eu la chance d'être acceptée en tant que femme parmi tous ces hommes pendant 3 mois. Et j'ai eu la chance qu'ils acceptent aussi que je les filme.
Marianne Chou, il y a une première chose qui frappe, parce que dans ce monastère, il y a des hommes, mais il y a aussi, peut-être et surtout, des enfants et des très jeunes enfants. Or, la vie y est extrêmement rude. D'ailleurs, les enfants sont, j'allais dire, un peu livrés à eux-mêmes. Peut-être que ce n'est pas le sentiment que vous avez eu, mais en tout cas, ils doivent se débrouiller dans leurs cellules. Ils vont chercher l'eau, le bois, ils font leur feu, ils font leur vaisselle. Le chemin qui les conduit au village est très long, très périlleux. Tout le quotidien, en fait, relève de l'épreuve. Vous attendiez à quelque chose de si difficile?
Oui, en fait, cette région, pour tout le monde, elle est difficile. Et dans les villages aussi, dans les monastères aussi, les enfants sont très, très tôt responsabilisés. Et on travaille jusqu'à la fin de ces jours. Si on veut participer, il faut participer si on veut manger, grosso modo, hein. Donc les enfants, dès qu'ils sont en âge de porter de l'eau, ils vont porter de l'eau. Et ce que je voulais montrer vraiment dans ce monastère, c'était aussi le côté pratique de la spiritualité. La spiritualité, elle existe dans les textes, dans les prières, et il passe plusieurs heures par jour à les apprendre, à les réciter, à s'en imprégner, à essayer de les comprendre. Mais aller chercher de l'eau à la source, c'est aussi un acte spirituel. Et ils font ça toujours dans une grande conscience de l'esprit. Et ils essaient de travailler leur cœur. Et à un moment, le petit garçon qui me dit « rends ton cœur fort ». Et ce cœur, on le travaille dans la prière, mais on le travaille aussi en aidant les autres, en s'entraidant, c'est très très important.
Et oui, mais surtout, il y a une chose, Marianne Chou, c'est que cette entraide, dans ce contexte si difficile, si rude, ça devient carrément un besoin, quoi. C'est bien sûr dans le bouddhisme un devoir, mais c'est aussi dans ce cadre-là, dans ce contexte, un besoin. On ne peut pas faire autrement.
Oui. Pour tous les habitants de la région, on est vraiment dans un désert d'altitude extrêmement aride. Donc, on arrive à cultiver de l'orge, des petits pois, un petit peu de blé, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il faut dériver l'eau des glaciers, etc. Et on dépend les uns des autres pour sa survie au quotidien. Donc, à l'intérieur d'une famille, on le disait, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde travaille. Mais à l'intérieur d'un village, c'est la même chose. Et à l'intérieur du monastère aussi. Et c'est vrai que le pilier du bouddhisme, qui est la compassion, se trouve du coup mis à l'épreuve tous les jours dans la vie quotidienne. On est tout le temps dans l'entraide, on est tout le temps dans l'empathie. Et on surveille toujours que la communauté va bien avant d'aller soi-même. L'individu, en fait, s'efface un petit peu au profit des autres.
Vous avez suivi notamment, Marianne Chou, le petit Ken Rapp, qui a 8 ans, qui assez tôt, en fait, a été convaincu, à l'âge de 5 ans, d'être la réincarnation d'un vieux moine. Il vit aujourd'hui dans ce monastère. Est-ce qu'il a véritablement choisi d'y aller, d'aller y étudier? Est-ce qu'il avait d'autres choix?
Alors, il a véritablement choisi. En fait, quand il a commencé à dire ses premiers mots, donc il avait à peu près 3 ans, il a dit à ses parents, écoutez, je ne peux pas rester avec vous au village. J'ai laissé toutes mes affaires au monastère. Il y a mes livres de prière, il y a tous mes objets religieux. Je dois retourner au monastère. Et il se souvenait effectivement être la réincarnation de ce vieux moine. Et ses parents lui ont dit, attends encore un petit peu, tu restes encore quelques années avec nous, tu partiras quand tu auras 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, il est parti. Et c'est vrai que c'est un choix qui est personnel, à l'intérieur d'une culture très déterminée aussi. Donc il y a une partie du libre-arbitre, mais dans une culture qui façonne les pensées, qui façonne les goûts, les envies, les désirs. Et le petit Kenrap, à l'âge de 3 ans, il avait déjà entendu parler du monastère, bien sûr, son oncle est moine, il aimait déjà énormément son oncle, donc il avait envie de s'en rapprocher. Donc c'est un choix individuel dans un contexte culturel très coercitif, j'allais dire.
Vous avez l'impression qu'il est et que les autres moines qui vivent avec lui sont heureux. Évidemment, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, mais
votre impression... mais il se questionne beaucoup sur le bonheur. C'est vraiment une question qui est très très importante.
Oui, bien à un moment c'est très intéressant. Vous avez un échange à un moment justement sur le bonheur. Il y a un moine qui dit finalement que nous en Occident on ne peut pas être heureux parce qu'on est trop occupé, on veut toujours être autre part, etc. Il y a un échange assez intéressant entre vous et un moine sur la question du bonheur justement. Et lui, il vous dit qu'en gros ils sont heureux parce qu'ils ont le temps.
Pour rire et qu'on a le temps de rien apprécier et que quand on fait quelque chose, on pense à ce qu'on va faire après et donc on ne goûte rien en fait. On est tout le temps en train de se projeter. Donc eux, ils sont ils ont cette conscience du bonheur qui est très forte et ils savent que le bonheur est à chercher à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Et ça, c'est déjà un trésor. Ils essaient de chercher le bonheur. Ils ont un mot qui est très beau, qui est le sème, qui dit aussi bien le cœur que la conscience et que l'esprit. Et on travaille ce sème, on rend son cœur fort, on rend son cœur heureux. Et le bonheur, c'est vraiment de se contenter de ce qu'on a, bien sûr, mais de goûter pleinement chaque moment, etc. Et ils savent que ce n'est pas dans la possession, dans l'accumulation et dans des phénomènes extérieurs qu'on trouvera quelque chose qui s'approche du bonheur. Et je pense qu'ils sont heureux. Oui, je pense qu'ils sont heureux.
Peut-être dernière chose, Marianne Shaw. Dans votre documentaire, on ne voit pas beaucoup de signes de modernité. On a l'impression que seule votre caméra est un objet de modernité dans le paysage et qu'on ne voit évidemment pas. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que la modernité quand même se rapproche peu à peu de ces moines bouddhistes et comment est-ce qu'ils voient ces évolutions, si c'est le cas? Où est-ce qu'on est?
Oui, la modernité se rapproche. Malheureusement, j'allais dire à grands pas. Eux en sont très heureux. Il y a une route qui est en construction, qui va bientôt arriver au monastère et ils se réjouissent extrêmement de ça. La télévision est arrivée depuis le moment où j'ai tourné le film et maintenant ils ont la télévision, toujours pas l'électricité. Donc il y a peu de signes encore de modernité. Mais c'est une région qui change extrêmement vite et on sait que quand une route arrive quelque part, les hommes peuvent quitter le lieu très facilement et c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de monastères et dans beaucoup de villages qui sont joignables par la route. Et puis, y a des échanges plus grands. Et je pense que un des trésors de ce monastère, c'est justement d'être éloigné de plusieurs jours de marche de la première route carrossable. Ce qui fait que quand on est là-haut, on est vraiment là-haut et on est très concentré dans un moment présent. Et quand il y a la route qui arrive et que c'est tellement facile d'y arriver, on vient passer une heure au monastère et puis on s'en va. Et les moines, pareil, ils seront pas, je pense, dans la même concentration. Malheureusement, heureusement, eux, ils sont très, très heureux de ces changements. Eux, ils les veulent, ils ont envie de plus de confort, de plus d'électricité, de plus de moyens de communication. Donc c'est une question qui est vraiment difficile.
Merci beaucoup, Marianne Shaw, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, cinéaste, ethnologue, auteur de cette série de documentaires Himalaya à hauteur d'homme, pardon, et puis Himalaya, le chemin du ciel, c'est ce documentaire en particulier dans ce monastère dont on parlait. Et puis j'indique pour les auditeurs qu'on pourra vous entendre très bientôt dans Tout un monde de Marie-Hélène Fraissée. Ce sera le 24 décembre, le mardi de 15h à 15h30. Merci infiniment. Et merci infiniment à vous, Pierre Chavot, de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci à vous de m'avoir permis de le faire.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre beau livre. C'est bientôt Noël d'ailleurs, hein. Ça peut être un très beau cadeau. Voyage spirituel au sommet du monde, aux éditions de l'Archipel. Un grand merci à toute l'équipe de Culture Monde, à la technique Jacques Azubert ici à Paris, mais aussi les techniciens qui sont en duplex, qui sont à Bordeaux, qui ont permis ce duplex.